une table ronde très importante qui va donc aborder les enjeux politiques relatifs à cette manière de définir ce qu'est le racisme et ce qu'est la discrimination à l'école, en essayant de pointer du doigt des éventuels litiges, désaccords entre l'approche de l'institution scolaire sur ce qu'est le racisme et discrimination raciale et l'approche de ceux qui coutument d'appeler maintenant les principaux concernés, les personnes concernées par ces questions. Et donc la table ronde est aussi une manière de mettre en avant tout ce qui concerne les stratégies de lutte, mais aussi les stratégies de reconnaissance et de mise en place d'actions pour faire entendre la voix des principaux concernés. Et ce sera sûrement l'occasion d'évoquer certains obstacles rencontrés dans ces différents modes d'action. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui nous importe là, d'avoir différentes présentations avec différents points de vue très situés autour de ces questions de lutte contre le racisme et discrimination à l'école, ça fait écho à tout un ensemble d'autres initiatives, notamment qui ont eu lieu l'année dernière et il y a 2 ans, autour de collectifs, enseignants, acteurs associatifs, militants, syndicalistes, chercheurs, artistes, qui se regroupent et qui essaient de comprendre les enjeux autour du racisme et des discriminations à l'école. Ça avait donné lieu à un colloque lutte de l'immigration, lutte antiraciste, il y a 3 ans, mais surtout à Marseille l'année dernière, avec différents acteurs qui sont ici ou dans la salle, travailler sur les frontières qu'impose l'institution scolaire pour définir un problème et des tactiques ou des stratégies pour lutter contre ces questions, donc où Action Culture et Territoire notamment avait été impliqué pour questionner ces différents enjeux, ces différentes définitions. Donc on va donner la parole, puisqu'il y a très peu de temps à chaque fois, à nos différents invités. Pauline, du coup, tu expliques comment on organise la...
On a donc décidé d'organiser cette table ronde en fait en découpant un peu en 3 temps, on va faire 3 tours de table d'une trentaine de minutes chacun, et après on utilisera le temps qui nous restera, qui nous a été un peu raboté, pour avoir un maximum d'échanges avec la salle dans ce temps contraint. Donc voilà, donc pour commencer, je vais demander à nos intervenants de bien vouloir se présenter un peu de quel point de vue ils nous parlent et de quelle mobilisation ils vont nous parler, de quelle lutte. Ils vont nous parler soit en tant qu'acteur de ces luttes ou en tant qu'observatrice, sociologue de ces luttes. Voilà. Donc je vous laisse, je ne sais pas, est-ce que tu veux commencer, puisque tu es à côté de moi.
Alors, Anne-Anne Karimi, je suis docteur en sociologie et dans ma thèse de doctorat, je travaille la question de l'assignation à l'altérité radicale en France et les chemins d'émancipation que les actrices, parce que mon terrain ne concerne que des femmes musulmanes qui portent le foulard, donc les mobilisations qu'elles mettent en place pour échapper à cette assignation. Et l'un de mes 3 terrains concerne les luttes autour de la citoyenneté avec Maman Toutes Égales, Identité Plurielle et le dernier, Sortie Scolaire Avec Nous, donc qui concerne toutes des mamans qui sont exclues des sorties scolaires parce qu'elles portent le foulard, donc en application à la circulaire Châtel.
Karim Chaouchi, membre du collectif Vivre Ensemble d'Égalité à Lormont, près de Bordeaux, du coup, qui est un collectif qui lutte contre les discriminations liées aux origines. Et dans le cadre où j'ai été convié aujourd'hui, notamment sur tout un travail autour de l'enseignement de l'histoire par rapport à la colonisation.
William Berouma, enseignante d'anglais dans un collège à Noisy-le-Sec, membre de Sud d'Éducation 93 et aussi de la commission antiraciste qu'on a ouvert au sein de ce syndicat.
Pareil que ma camarade, Rachel Salem, professeure des écoles à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Nous faisons toutes les deux parties, comme je viens de le dire, de la commission antiraciste de Sud Éduc 93. Un syndicat de l'éducation.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Lycelle Quiroz et je suis membre du Front de Mère, qui est un réseau qui vise à devenir un syndicat de parents de parents dont le but est de partir donc, des initiatives plutôt locales, les fédérer hein, et pour aussi donner résonance à toutes ces initiatives locales. Voilà, et en partant plutôt de la perspective donc, des parents des quartiers populaires, hein, autour d'un certain nombre de questions, mais je pense qu'on va ensuite développer un petit peu plus en détail quelles sont ces actions.
Mais justement, est-ce que vous voulez bien nous... On va reprendre le fil maintenant qu'on sait qui vous êtes. Est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu les actions auxquelles vous participez ou que vous avez pu étudier?
Alors, le Front de Mer est un réseau qui a été fondé il y a plus d'un an et demi par Fatima Wassak et Diarra Toukébé, dont le but était de donner plutôt de résonance à toutes les organisations, les combats, les mobilisations que mènent des collectifs de parents au niveau local. En articulant à la fois les parents, mais aussi les enseignants, les acteurs de l'éducation, des enfants en général. Et l'originalité par rapport à d'autres associations de parents d'élèves, comme je le disais, c'est de partir des préoccupations alors des parents des quartiers populaires et en particulier les initiatives, les actions enfin, qu'on mène, c'est autour de, par exemple, l'alternative végétarienne à la cantine, les questions de discrimination à l'école que subissent les enfants et les parents. Autour aussi, par exemple, des représentations positives, hein, en partant de l'idée que, justement, on a par peu de représentations positives par rapport à différentes origines, les origines non européennes des enfants. Et donc, en termes de littérature, de programmes scolaires, de références en général... là aussi, ça nous intéresse. Autour aussi, à partir du primaire, des programmes scolaires. Alors, on aimerait ou on propose de travailler pour que ces programmes soient plus inclusifs hein, et n'invisibilisent plus, comme jusque-là, l'histoire coloniale depuis notre perspective, et que ces programmes intègrent davantage ou différemment, par exemple, les figures anticoloniales, hein, qu'on voit peu, ou issues de l'immigration postcoloniale. Donc sur ça aussi, on mène une réflexion autour de ce sujet. Enfin, l'orientation scolaire, hein, qui est une préoccupation centrale pour les parents issus des quartiers populaires, hein, vraiment comprendre le système scolaire qui est souvent d'une grande opacité pour nous qui n'avons pas... Bon, personnellement, je suis une immigrée, donc j'ai pas étudié dans cette... dans l'école française, donc c'est tout un apprentissage à comprendre le fonctionnement. On organise des ateliers, des conférences sur ça. Et justement, alors on vient d'organiser notre rentrée le 15 septembre qui a développé toutes ces questions. Hein. On a présenté différents ateliers, différentes conférences autour précisément de tous ces sujets. Alors en intégrant également notre idée d'intégrer aussi les enfants, dont ça, on est vraiment avec cette idée de vraiment partir de ces préoccupations concrètes et donc d'organiser aussi des ateliers, non seulement pour les parents, mais pour les enfants. Personnellement, le 15 septembre, j'ai organisé je menais l'atelier d'histoire à partir d'une perspective anticoloniale hein, pour présenter. On a présenté la guerre du Rif et, par exemple, l'histoire de la princesse Zinga d'Angola. Donc bon, voilà, des actions de ce type pour construire différemment et construire de manière positive. Hein, c'est cette école qu'on veut, école publique qu'on veut inclusive et vraiment égalitaire pour tous et toutes.
Alors moi, je vais présenter, avant de présenter la commission antiraciste de Sud-Éduc 93. Donc c'est un syndicat qui prône par la pédagogie, qui vise ce qu'on appelle une transformation sociale. Et dans cet objectif-là, elle veut déconstruire dans les pratiques enseignantes, dans les pratiques pédagogiques, tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'oppression. Et donc, du coup, on enclenche sur tous les thèmes d'oppression, que ce soit le validisme, le sexisme, le racisme, le classisme, etc., une réflexion pédagogique sur comment prévenir au sein de nos espaces éducatifs, comment prévenir aussi entre nous, entre membres du syndicat, ce genre d'oppression que le Sud-Éduc 93 rejette pour viser une meilleure égalité des individus dans une société. Donc, c'est un syndicat de transformation social, enfin qui se veut. Après, il y a beaucoup de choses à faire et tout est en évolution, en réflexion. Je vais laisser ma camarade présenter plus précisément, là j'ai posé le cadre, la commission antiraciste de Sud-Éduc 93.
Donc avant de présenter la commission, j'aimerais revenir sur une des actions qui a lancé en fait, ou en tout cas relancé la commission antiraciste. C'est le stage que nous avons organisé avec des camarades au sein du syndicat, un stage sur le racisme dans l'éducation l'année dernière. Ce stage est parti du constat en fait que bah, tout simplement on parlait beaucoup de genre à l'école, aussi de classe, mais on parlait très très peu de race. C'est un sujet qui est très problématique et sur lequel bah, y a très peu d'études en réalité. D'autre part, les enseignants en fait sont tous les jours face à des élèves racisés, mais n'ont aucun moyen, ou en tout cas pas peu de support sur lesquels s'appuyer pour enseigner ce qu'ils enseignent tous les jours. Partant de ce constat-là, on s'est dit que ce serait intéressant d'aborder cette question-là. Et effectivement, l'histoire nous l'a prouvé parce que ça a créé ce stage a créé une telle polémique qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le sujet du racisme dans l'éducation, c'est un sujet qui, de un, n'a pas été abordé, et de deux, est extrêmement brûlant. Brûlant sur plusieurs points, parce que forcément, on bouscule les gens quand on discute de ça. Et aussi parce qu'en fait, c'est des sujets qui, effectivement, visent à réformer entièrement et profondément la société dans laquelle on vit. Donc on remet en question énormément de choses, des choses qu'aujourd'hui, beaucoup refusent totalement de remettre en question, parce que c'est refuser aussi hein, l'ordre établi. Donc ce stage-là, il avait pour but, il avait plusieurs buts, mais un des buts, c'était d'aborder cette question-là de 1, et de 2, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour les enseignants, mais aussi pour tout le corps professionnel dans l'éducation nationale, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réfléchir à ces questions-là. Le stage a connu un énorme succès, et aussi beaucoup de problèmes, vu que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a porté plainte contre ce stage, une première fois pour l'utilisation des termes « racisme d'État ». Donc Monsieur Blanquer réfutait totalement l'existence de racisme dans l'État. Cette plainte est tombée à l'eau, parce que ce sont des études sociologiques qui montrent que effectivement il y a du racisme dans l'État, et notamment dans l'éducation. Et le ministre a porté plainte une seconde fois pour discrimination par rapport à des ateliers qui avaient eu lieu en non-mixité. Plusieurs des camarades du syndicat, dont moi-même, avons été convoqués au commissariat pour répondre à des questions sur qu'est-ce que la blanchité, qu'est-ce que racisé, qu'est-ce que vous entendez par là, etc. Donc c'est dire à quel point en fait ces questions-là sont extrêmement importantes à aborder. Suite à ça, avec les camarades avec lesquels on a organisé le stage, on a relancé la commission antiraciste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que, en réalité, même dans les mouvements antiracistes ou les mouvements qui veulent mener une vraie lutte contre le racisme, y a énormément de travail à faire. Cette commission, elle a pour but d'aborder toutes ces questions-là, effectivement, et aussi d'amorcer, on va dire, un travail en profondeur au sein même du syndicat, parce qu'il n'est pas sans savoir que les syndicats sont à majorité blanche, que tout comme les enseignants d'ailleurs, et qu'il va falloir prendre ces questions à bras-le-corps pour pouvoir donner des réponses, on va dire, satisfaisantes. Voilà.
Donc, pour vous, je vais resituer un peu l'histoire du collectif Vivre Ensemble Égalité, comment il s'est créé, dans quel contexte. Donc, nous sommes en 2010, centre social de Lormont, communauté urbaine de Bordeaux, donc on est juste à côté de Bordeaux, dans les quartiers nord de Bordeaux. Et le centre social organise une semaine d'ateliers d'écriture en rap et en danse. Donc les jeunes participent et à la fin de cette semaine, sur la lutte contre les discriminations, ils organisent un débat. 40 jeunes présents au débat. La principale volonté, c'est qu'il y avait à manger, en fait, concrètement. C'est une réalité, malheureusement, et je fais partie de ces jeunes qui étaient là ce jour-là. Donc, bizarrement, il n'y avait aucun animateur, donc les personnes avec qui on était en lien au plus près, au quotidien du centre social, il y avait la directrice qui était présente lors de ce débat, et il y avait deux messieurs en costume, donc qui s'avèrent être le délégué du préfet et le chargé de mission lutte contre les discriminations de la DRJ-SCS. Et ces personnes-là nous ont dit, vous vivez des discriminations et c'est illégal. Donc déjà, nous on était là, on n'osait pas trop parler, on savait pas trop si on devait se fier à ces personnes ou pas. Et du coup, ces personnes nous disent ça. Du coup, le débat s'ouvre. Donc on pose la question, oui, mais si j'ai été contrôlé telle fois, est-ce que c'est illégal ? Oui, c'est illégal. Et en fait, on se rend compte que chacun d'entre nous, qui nous côtoyons au quotidien, et il y avait même des personnes qu'on ne connaissait pas, des jeunes qu'on voyait, mais qu'on ne connaissait pas, vivaient les mêmes choses que nous, vivaient les mêmes choses que moi. Et donc, du coup, c'était bien. Et on se disait, dans le débat, on s'est dit à un moment donné, l'enseignement de l'histoire, tel que on l'apprend à l'école, quoi. Ça ne nous ressemble pas. Moi, Karim, l'histoire de ma famille, qui est venue d'Algérie, l'histoire de la France en Algérie n'apparaît pas, ou n'apparaît peu, ou apparaît seulement selon un point de vue dans l'enseignement de l'histoire, alors que mon amie Marjorie, son histoire, elle y existe. Et donc on s'est posé cette question. Donc le débat, on a continué à débattre, et on connaît les débats des centres sociaux. Allez, discrimination, on fait une semaine d'atelier sur les discriminations. À la fin, on fait une affiche avec un globe, une main noire, une main blanche, une main qui tout le monde se donne la main et ça y est, on a lutté contre les discriminations. Donc du coup, mon ami Enedi, qui fait partie du collectif aussi, était à la porte du centre social. Il a dit, on n'a qu'à faire notre propre livre d'histoire. Et à partir de ce moment-là, la directrice du centre social, elle a dit « chiche, alors engagez-vous ». Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, la semaine d'après, on est en train de bosser sur l'histoire. On a commencé à travailler sur l'histoire, on a découvert l'histoire d'où on venait, parce que dans nos familles, souvent c'était... dans nos familles, je parle en mon nom, mais il y avait des personnes de toute origine... Au sein du groupe de jeunes. Et on s'est dit, punaise, mais faut que ça apparaisse absolument dans les livres scolaires, quoi. Et du coup, on s'est entouré d'historiens, on a même fait appel à des profs d'histoire qui étaient nos profs, vu qu'on était lycéens, qui ont appris des choses en même temps que nous. Donc à un moment, on s'est dit qu'il y avait des problèmes. Et du coup, il y a une fierté qui est ressortie de nous en se disant, punaise, mais cette personne qui a lutté, par exemple, je parle en mon nom, en Algérie, pourquoi on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire? Pourquoi on ne valorise pas le combat des Algériens pour leur indépendance, pour la décolonisation? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, on va faire notre propre livre d'histoire. Du coup, entre-temps, on a mis entre parenthèses ce projet lié à l'histoire. On a fait des projets justement pour interpeller les personnes discriminantes. Parce qu'on a appris qu'il faut donner la parole aux premiers concernés. Et c'est ce qui a été fait. c'était pas un tabou de dire noir, c'était pas un tabou de dire arabe, c'était pas un tabou de dire asiatique. Alors que dans nos vies, dans les institutions, on a toujours connu que c'était interdit de se dire ces mots, qu'on était tous égaux. Mais à partir du moment qu'on dit qu'on est tous égaux, c'est nier qu'il existe des discriminations, c'est nier qu'il existe du racisme. Et donc, du coup, on est parti interpeller ces intervenants, ces potentiels discriminants. Donc, on a pu faire des rencontres. On a rencontré des sociologues comme Saïd Bouamama, Olivier Noël, Fabrice Dum, qui m'a connu maigre. Et donc, c'est des personnes qui nous ont apporté des savoirs, mais nous aussi, on leur a apporté par notre expérience. Et justement, on a organisé un séminaire en 2011. On a organisé un séminaire en 2011 où on a invité tout le gratin, police, élus, école. On a invité tout le gratin. D'ailleurs, il y a les vidéos, on pourra en parler après si vous voulez. Et les gens s'attendaient à beaucoup d'animosité. Et pensaient que des jeunes habitant dans un quartier populaire ou non, parce que le collectif était très hétérogène, avec notamment beaucoup plus de filles que de garçons, ça les a déstabilisés, les gens, parce que en fait leur principale réponse qu'ils avaient préparée, en fait, c'était pour faire face à de l'agressivité. Et quand ils sont tombés sur des jeunes qui pouvaient tenir un débat avec eux, ils se sont trouvés déstabilisés et il y a eu des réactions vives de la part des personnes qui ont le pouvoir et qui ont justement qui ont un pouvoir de discrimination. Et ces personnes-là, ça les a bousculés. Du coup, on a pu voyager un peu partout pour montrer ce qu'on avait dans le ventre et pour interpeller les institutions, interpeller les professionnels. Parce qu'on nous dit souvent, donnez-nous la solution. Nous, on est bénévoles, on est engagés, on est jeunes. On n'a pas à donner la solution. Nous, on appuie sur le signal d'alerte et c'est les personnes en place qui sont en place qui doivent faire bouger les choses. Mais nous, on interpelle. Ça ne veut pas dire qu'on reste inactif pour autant. Et justement, dû à cette pression, voilà, ça nous a causé des soucis. On en parlera après. On a eu des soucis avec les institutions. Il y a eu des coups de mou. On est jeune, on a besoin de faire nos vies. Bon, voilà. Il y a eu tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, on est revenu sur ce travail d'histoire, justement. On a fait un film qui s'appelle « Décolonisons l'histoire ». Justement, qui parle de toutes ces questions, en fait, sur comment les discriminations que l'on vit aujourd'hui ont un lien avec ce qui s'est passé pendant la décolonisation, même voire plus loin, pendant l'esclavage. Comme par exemple, pourquoi à Bordeaux, aujourd'hui, on continue à faire honneur aux armateurs négriers avec des noms de rue à tout va. Donc voilà, on aura l'occasion de parler ensuite des alliances et des freins.
Alors, moi, j'ai une position assez particulière parce que du coup, je ne vais pas vous parler d'une lutte que j'ai menée, mais d'une lutte que des femmes ont menée. Donc, je parlais de Maman Toutes Égales, sortie scolaire avec nous au Blanc-Ménil. Maman Toutes Égales, c'était plutôt Montreuil et puis, on va dire, la banlieue parisienne, parce qu'il y a une circulation des savoir-faire militants qui a eu lieu à partir de la visibilité de Maman Toutes Égales. Et donc, pourquoi la question de la laïcité apparaît là tout d'un coup dans cette table ronde? C'est que on se situe dans des luttes antiracistes et antidiscrimination hautement politiques et que ces exclusions constituent, aux yeux des actrices mobilisées, comme un des avatars des refus de l'égalité, comme les nomment Abdelali Ajat et Marwan Mohamed, qui est inscrit donc dans le champ politique de l'illégitimité sociale. C'est comme ça que moi je l'identifie, c'est-à-dire que l'illégitimité... Qu'elle soit sociale ou politique, elle prend différentes formes en termes de vocabulaire et le registre de la laïcité de plus en plus, et cette rentrée le montre encore, encore plus, et est un appareillage qui permet d'exclure pourquoi cette question aussi de l'illégitimité, beaucoup de personnes, alors tout ce qui s'est passé autour de la laïcité et de la nouvelle laïcité du 15 mars 2004, donc qui étend le devoir de neutralité aux élèves des établissements publics, il y a une production en termes d'articles, d'ouvrages sur cette question assez impressionnant. Pierre Bourdieu disait quelque chose concernant les affaires du foulard de 89, donc le déclencheur de toute cette question politique de la laïcité. Donc, pour resituer, à Creil, en 1989, trois jeunes filles dans un collège portent un foulard qu'elles refusent de retirer dans l'enceinte de l'établissement. Le directeur du collège décide de les exclure et ça devient une affaire d'État. Françoise Lorcery, qui est ici, a parlé de politisation de l'affaire du voile et elle a montré justement comment cette affaire a été politisée et mise à l'agenda politique pour amener à la, pour aboutir finalement à la loi du 15 mars 2004. Donc Pierre Bourdieu disait « La question patente, faut-il ou non accepter à l'école le port du voile dit islamique, occulte la question latente, faut-il ou non accepter en France les immigrés d'origine nord-africaine ? Cette question latente de l'illégitimité politique, selon moi, s'actualise dans le rejet des mères musulmanes qui portent le foulard et réactualise aussi la question latente en ces termes, faut-il ou non accepter en France les descendants d'immigrés nord-africains islamisés dans le sens où ils marquent leur islamité. Et donc, cette laïcité qui est dite également excluante, elle implique des luttes pour la reconnaissance, des luttes en termes d'égalité et de citoyenneté. C'est-à-dire que souvent, dans les débats politiques, on parle de ces luttes comme des tentatives d'islamiser ou de faire accepter la charia en France. Et mon analyse sur ces luttes, en fait, c'est qu'elles sont hautement politiques et qu'elles s'inscrivent dans tout ce qu'on connaît des luttes politiques en sciences politiques, justement. Et donc, moi, mon intérêt, c'était de savoir comment elles s'organisent. Parce qu'on est en face en tout cas dans la population que j'ai étudiée, dans les mouvements que j'ai étudiés, mes interlocutrices sont des femmes qui vivent en quartier populaire, qui ont un bas niveau d'études, souvent elles n'ont pas plus que le bac, et qui sont au foyer parce que du fait qu'elles portent le foulard, elles ne peuvent pas travailler, ou quand elles travaillent, c'est dans des emplois très précaires, et ce sont des femmes. Donc rejet, exclusion, discrimination, violence de genre en tout genre sont ce qu'elles expérimentent, et j'ouvre une petite parenthèse, là j'étudie, je parle que des cas où dans les écoles, il y a eu exclusion. Il y a majoritairement une application pragmatique de la laïcité. Dans les écoles, les établissements font avec le public qu'ils ont et certaines fois, ils se disent que de toute façon, la circulaire Châtel, on ne peut pas la mettre en place parce que interdire les mamans qui portent le foulard aux sorties scolaires, c'est se priver de sorties scolaires, tout simplement. Donc, il y a une application pragmatique du principe de laïcité, mais il y a eu aussi des établissements, et ça, je documente toute la manière dont c'est mis en place au niveau politique, où il y a des établissements qui appliquent la circulaire Châtel à Montreuil et au Blanc-Ménil, par exemple, ce sont les deux cas. Et j'étudie plutôt en fait comment cette lutte s'organise, comment elle se met en place. Et j'observe finalement qu'il y a des entrepreneurs de cause qui s'inscrivent clairement dans une lutte antiraciste et contre l'islamophobie qui permettent la mobilisation et le transfert de savoir militant.
Du coup, on passe au deuxième. Ben alors, tu peux peut-être continuer, Anan, si on décide de faire des allers-retours en termes de prise de parole dans ce tour de table.
Oui, je continue sur le... Il n'y a pas d'autres questions ? Non ? Le deuxième point, peut-être ? Pour que je sois...
Oui, 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 oui.
Le deuxième point qui est plutôt de quelles alliances et de quel soutien la mobilisation dont on parle en bénéficie ?
Parfait. C'est là où je me suis arrêtée. Donc, je dis entrepreneur de cause, par exemple, dans le cas de Maman Toutes Égales, très distinctement, si on étudie la question de l'extension de la politisation de la nouvelle laïcité, qui est, il y a eu la politisation de, la laïcité, de l'affaire des, du foulard et de la laïcité, et il y a eu la tentative aussi de d'étendre à plus que les élèves des établissements scolaires publics, et donc les mamans accompagnatrices. Donc, comme dans le cas du foulard, on voit toute une mise à l'agenda de cette question, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais le soutien de Luc Châtel à la directrice d'une école primaire à Pantin, l'école Joséphine Becker, son soutien à cette directrice parce qu'elle avait interdit une maman d'accompagner aux sorties scolaires en disant ça fait partie de la laïcité. Alors il y a eu toute une ingéniosité en termes de vocabulaire. Hein, on a dit que les parents étaient collaborateurs du service public. On a dit qu'ils étaient associés, pas fonctionnaires, mais voilà, que là ils avaient un rôle de représentant, en tout cas, donc qui induisait qu'ils devaient être neutres. Et donc lors de cette déclaration, ceux qui s'étaient mobilisés déjà, notamment le collectif des féministes pour l'égalité, qui succède à une école pour toutes et tous, qui se mobilise contre la loi du 15 mars 2004, remobilise le réseau en disant qu'il faut faire quelque chose. Donc un mail part, elle se déplace à Montreuil pour une réunion publique où quelques mamans concernées vont, parce qu'elles sont en souffrance du fait de l'exclusion, elles le vivent très mal, et elles y vont, et puis elles se rendent compte qu'il y a des gens qui sont très inquiets de ce qui leur arrive et qui sont prêts à les aider, à s'organiser pour lutter contre ces exclusions. Donc c'est la naissance de Maman Toutes Égales dans ce cas-là. Aux sorties scolaires avec nous, au Blanc-Ménil, donc c'est dans un quartier bien particulier où la plupart des écoles interdisent aux mamans qui portent le voile d'accompagner en sortie scolaire, c'est la maison de quartier, la maison des tilleuls, qui va jouer ce rôle en termes d'offres en termes d'organisation, d'écoute, d'expertise aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des petits déjeuners tous les 15 jours dans cette école de quartier entre parents. Et à la rentrée de la circulaire Châtel, si je ne me trompe pas, septembre 2012, elles parlent toutes de leur exclusion, de cette nouvelle loi, pour certaines, on l'a représentée comme une loi, est appliquée. Et donc ça ne tourne qu'autour de ça. La directrice de la maison de quartier leur dit, comme dans notre cas Karim, si vous voulez faire quelque chose, on est là. Et donc c'est comme ça que le collectif sortie scolaire avec nous débute.
Donc du coup, nous, le collectif Vivre Ensemble Égalité, après avoir réalisé le film Décolonisant l'histoire, donc en 2014, on a voulu le diffuser dans les lycées, auprès de l'académie, tout ça. Du coup, on a commencé à rentrer dans les lycées à travers des professeurs qu'on connaissait et qui étaient convaincus par la question. On a réussi à organiser des formations avec tout le personnel du lycée parce qu'on avait un soutien institutionnel fort quand même au début de la part de région, département, État, CAF. On avait ce soutien, donc les gens ouvraient les portes. Et du coup, on a pu remarquer justement que, je me dévie un peu de la question, mais que le travail était très très difficile vis-à-vis des professionnels du lycée, parce que les élèves, faire passer le message aux élèves, c'était pas forcément notre volonté à la base. Mais on l'a fait quand même parce que ça peut essemer quelques petites graines auprès d'eux. Mais du coup, nous, on voulait vraiment former les professionnels dans les lycées à ces questions. Et du coup, ce qu'on a pu remarquer, c'est que d'un, ça mettait en difficulté les professeurs qui nous invitaient et qui portaient le projet au sein de la structure. Parce que malheureusement, quand on critique le système scolaire, les professeurs et le personnel le prennent pour eux, pour une critique de leur travail. Et malheureusement, ça a dû s'arrêter. Concrètement, on essaye de reprendre un peu aujourd'hui, mais faire rentrer ces questions dans ces questions de discrimination liées aux origines, de remise en cause de l'enseignement de l'histoire avec un document, avec un quelque chose de complémentaire, quoi. Justement pour donner une autre version, une autre vision, quelque chose de plus riche, ça a été mal pris. Donc du coup, on a arrêté sur ces questions et aujourd'hui, on diffuse le film auprès de professionnels qui nous invitent justement pour le voir et pour débattre ensemble sur ces questions. Donc pour revenir au soutien, on a eu le soutien de la ville, donc Lormont. Enfin, on l'a forcé un peu à nous soutenir publiquement. Et paradoxalement, en fait, on était assez reconnus nationalement pour notre travail et pour justement les interpellations qu'on faisait auprès des professionnels. Mais au niveau local, en fait, on était un peu vus comme les chats noirs. Pourtant, on n'était pas... parce qu'on remettait beaucoup en cause, en fait, ce qui était fait au niveau politique local et au niveau politique local. Là, je vais rentrer dans les freins, donc je laisse la parole. Comme ça laissera plus de temps pour le débat après.
Tu peux juste préciser, quand tu dis CAF, État, département, région, tout ça, c'est des soutiens financiers pour le film
Pour tous les projets que l'on a menés.
Du collectif, d'accord. Voilà.
Alors, la question des soutiens, c'est une question qui est très importante parce que c'est quand on voit les polémiques qui sont créées autour des mobilisations dans les militants, pardon, mais aussi à propos du stage qu'on a lancé, on se rend bien compte que les soutiens se font très rares et qu'il devient très problématique pour certains qui ont été des soutiens de toujours, à un certain moment, de continuer à être soutien quand, on va dire... l'opinion publique force en fait les débats à aller dans l'autre sens. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si je prends par exemple le stage qu'on a organisé, ce stage il a créé des polémiques donc au niveau on va dire national, mais aussi au sein même du syndicat, parce que les termes ont tout de suite suscité des débats. Voilà, il y avait ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui parlaient, ceux qui disaient racisé, qu'est-ce que ça veut dire, mais pourquoi, mais quand même, je le trouve violent ce terme, etc. Et aussi la question de la non-mixité, qui est une question qui, aujourd'hui, enfin, quand on parle des milieux de gauche antiraciste, c'est une question qui crée encore débat aujourd'hui. En fait, cette question des soutiens-là, pour moi, elle est très importante parce qu'elle est révélatrice du climat dans lequel on est aujourd'hui. Bien sûr, on a quand même rencontré quelques soutiens et c'était principalement les milieux, les chercheurs en sociologie qui validaient les termes. Pas beaucoup de médias, bien entendu. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Anam Karimi sur l'application pragmatique de la laïcité. En réalité, moi je pense qu'effectivement dans plusieurs établissements elle est appliquée, mais en réalité c'est les questions aujourd'hui de racisme, de laïcité et tout créent une telle hystérie qu'en fait on est face à des soutiens qui disparaissent de jour en jour. Quand on sait que par exemple le ministre de l'Éducation nationale a été ovationné lorsqu'il a annoncé sa plainte par tous les partis politiques, y compris l'extrême droite. C'est quand même très révélateur de la difficulté en fait de cette question-là des soutiens. Donc voilà, mais bien entendu, comme je disais, on a eu des soutiens au niveau des professeurs, parce que c'est aussi une question qui a énormément divisé au sein même de nos établissements à nous. On a eu quelques soutiens d'enseignants qui étaient intéressés, qui se sont dit en fait c'est très nouveau ce que vous nous dites, on connaît pas, qu'est-ce que ça veut dire. Et on parlera des obstacles plus tard, mais on a quand même eu, voilà, on a quand même, on va dire, lancé un petit peu un pavé dans la mare. Et ça a quand même permis à un éveil, on va dire, de beaucoup d'enseignants. Je te laisse
compléter. Oui, pour compléter, on a aussi eu le soutien des syndicats, d'autres syndicats qui nous ont beaucoup défendu sur la question de la liberté syndicale, de formation. Et vis-à-vis des soutiens, oui, c'est vrai qu'on a senti aussi beaucoup de mécompréhension de tous les outils qui peuvent être utilisés au sein d'espaces pour combattre ce qu'on appelle les oppressions. Hein. C'est pas quelque chose de simple à traiter. Et oui, il y a aussi des collectifs de lutte qui nous ont soutenus, aussi des personnages publics qui nous ont soutenus, comme Copernic, comme plein d'autres. Donc là, je vais arrêter là sur les soutiens, je reviendrai plus sur les obstacles. Merci.
En ce qui concerne le Front de Mer, nous, un peu dans la même ligne, on n'a pas de soutien de l'institution scolaire, donc ça c'est un fait. Donc en fait, on s'appuie plutôt sur les réseaux de parents, ni de l'institution publique en général, des institutions publiques. Alors, parce que nous, en étant un collectif qui rassemble différentes initiatives qui se trouvent dans différents points, par exemple Bagnolet, Montreuil, à Bordeaux, on n'est pas localisé dans une seule région spécifique. Et donc, dans ce cas-là aussi, on a du mal à rassembler. Donc nos soutiens sont de personnes qui partagent ces points de vue et ces intérêts, ces positions. Donc notamment des enseignantes et des enseignants, dont par exemple William, voilà, qui sont intéressés, qui trouvent que la démarche est importante. Des enseignants, des personnels de l'éducation, CPE par exemple, donc c'est vraiment là on a un soutien vraiment important, et d'ailleurs j'invite, je profite de l'occasion, s'il y a d'autres personnes intéressées, nous sommes ouverts, c'est pas un collectif de parents que de parents justement, enfin on œuvre plutôt dans le cadre éducatif pour les enfants, mais on a différents types de membres en fait, et donc voilà, pour répondre à la question. Donc on passe aux obstacles.
Voilà, je te redonne la parole pour.
C'est là.
Alors il y a l'idée de voilà les obstacles rencontrés, mais ça serait bien d'avoir aussi un début de votre propre explication de pourquoi tous ces obstacles. C'est pas seulement du. Voilà.
Alors donc moi.
Oui. Oui.
Donc en ce qui concerne le Front de Mer, les obstacles viennent de ce constat que l'école est structurellement raciste. Et globalement, c'est le message le plus difficile à émettre, à poser. Ce diagnostic-là est déjà souvent, très souvent contesté. Et donc c'est un vrai tabou, par exemple, là, le poser dans le cadre scolaire, surtout pour... les petits, la maternelle, l'école primaire, hein, c'est quelque chose qui est difficile à poser. Les obstacles, ils viennent déjà de cette possibilité d'émettre cette parole, hein, ce diagnostic, et l'infériorisation de nos savoirs, en fait, de considérer que les parents, on est surtout les quartiers populaires, hein, par définition, des parents un peu démissionnaires. En règle générale, je ne dis pas les chercheurs de recherche ici, mais que donc on a un peu cette étiquette là de pas savoir correctement, par exemple, ni nourrir nos enfants, hein, par exemple, toute la question, enfin, quand on participe à l'organisation des menus pour les cantines, hein, c'est souvent bon, bah on va leur donner un vrai repas, donc sous-entendu les autres repas à la maison, c'est un peu n'importe quoi. Donc il y a cet obstacle aussi de considérer qu'on élève correctement nos enfants, et donc que ces actions sont des actions contestataires, enfin, du système, c'est-à-dire destructrices en fait, qu'on porte en germe. Donc cette destruction, d'ailleurs, hein, on a, le collectif Front de Mer, il a un an et demi d'existence, mais on subit bon, des attaques, peut-être certains ont vu dans la presse, directement contre donc, ces actions, sans aucun fondement, simplement parce que on soulève des points vraiment spécifiques, enfin, centraux, l'alimentation, les droits simplement enfin, de nos enfants. Et donc, alors que nous nous battons et notre combat est pour cette école publique. En fait, on le dit, sommes des principaux défenseurs et défenseurs de cette école publique. Hein. En fait, on, voilà, on la veut simplement bienveillante et inclusive, et pas qu'on infériorise ni nos enfants, ni, ni les parents. C'est-à-dire que... voilà, on dit la santé, enfin, le bien-être de nos enfants passe aussi par ce respect de notre position, de notre autorité parentale, de notre responsabilité qui est pleine et entière. Hein, on le répète, en fait, nous sommes les dépositaires de cette autorité. On la délègue à l'institution publique, à l'école. Mais nous en sommes responsables et donc on veut travailler en fait avec cette institution, mais il est difficile de le faire parfois, enfin globalement contre l'institution. Alors de manière individuelle, justement, on a des soutiens individuels, mais bon, globalement certains médias et l'école, bon, n'est pas toujours voire certains syndicats, enfin bon, de parents ne sont pas toujours très cordiaux avec nos actions.
Alors, pour parler des obstacles, je vais aussi, après c'est mon point de vue, donc je parle en mon nom. Les raisons, en France, on a une pédagogie plutôt classiste des oppressions, alors que... On essaye au sein du syndicat Sud de ne pas les opposer entre elles, mais plutôt de les imbriquer les unes aux autres, et qu'on n'a pas forcément une tradition en France de ce qu'on appelle l'intersectionnalité des oppressions, parce que moi, en tant que femme, je ne suis pas que femme, je suis racisée, je suis autre chose aussi. Et malheureusement, en tant que femme racisée, par exemple, je ne peux pas parler que de sexisme. Je suis aussi obligée de parler... de racisme en fonction aussi du sexisme que je peux subir. Donc c'est quelque chose qui est très complexe et on n'a pas encore cette tradition française intellectuelle de parler de l'intersectionnalité des oppressions. Donc pour moi c'est un des principaux obstacles. Pourquoi parler d'autre oppression que le classisme qui reste quand même puissant et inégalé en termes d'inégalité de traitement fait que c'est difficile de parler d'autres types d'oppression. On a rencontré des obstacles internes et externes au syndicat, justement, parce qu'on essayait de pousser les gens à réfléchir sur ce principe d'intersectionnalité des oppressions. Donc, du coup, c'est un peu un tabou de société de parler de racisme. Même les oppressés par cette oppression ne se sentent pas forcément autorisés à en parler, que ce soit entre eux, entre elles, que ce soit avec d'autres personnes qui ne le subissent pas, qui peuvent plus ou moins ne pas le comprendre ou le comprendre très bien, ou ne plus ou moins ne pas l'abstraire, parce que abstraire une condition d'oppression, c'est très compliqué, parce qu'on le vit dès l'enfance, on le vit avec sa famille, avec la société, on le vit à travers l'image, à travers des imaginaires. Donc c'est une question qui est très complexe, qui est loin d'être simpliste. Et dans notre syndicat, on a rencontré le premier obstacle qui est un peu l'ignorance et que c'est un savoir qui a une forte charge émotionnelle. On ne parle pas de maths, pas de français, de règles de grammaire. On parle de choses qui peuvent nous toucher plus profondément. Et du fait, ça peut déstabiliser beaucoup les individus qui sont dans le déni ou pas, qui l'acceptent ou non, ou que, enfin, l'accepter dans le sens de le reconnaître. Donc du coup, le premier obstacle pour moi, mon analyse, elle est là-dedans. Et donc du coup, le travail pédagogique entre militants, entre enseignants, avec les enfants, parce qu'eux aussi sont acteurs de la réflexion pédagogique est très compliqué. Donc on y va pas à pas, on bouscule, c'est parfois inévitable. Donc effectivement, le premier obstacle, c'était le ministre, hein, l'État, etc., qui ont porté plainte, qui ont joué beaucoup de médiatisation sur cette question, sans reposer, sans parler réellement du réel souci dans notre société, qui est la non-mixité tout court, parce qu'on l'a subi, la non-mixité tout court, dans les hauts postes, dans l'Assemblée. Il y a différents types de mixité, la mixité genrée, la mixité raciale, la mixité liée aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et on ne réinterroge pas ça, on réinterroge un outil qui peut être mal utilisé, qui peut être très bien utilisé. Donc du coup, c'est pas forcément l'outil qu'il faut réinterroger, mais son but. Sachant, et nous sommes très attachés au fait de dire que nous sommes contre le racisme structurel et systémique, que le racisme n'est pas une question que morale, elle est aussi politique. Et donc, comme elle est structurelle et systémique, nous avons le devoir d'y réfléchir pour éviter de le reproduire malgré nous, parce qu'il est systémique et structurel. Donc, au niveau des médias, des collectifs, ils se sont aussi fait plaisir, hein, F2 Souche, la LICRA, plein de médias de gauche, Marianne, etc., qui ont beaucoup plus caricaturé cet outil, qui n'est qu'un outil ponctuel, non obligatoire, et visant à protéger la parole des oppressés, sans exclure forcément de manière discriminante les autres, mais vraiment en essayant, il n'est pas parfait, et on avance avec ça. On a eu au niveau professionnel aussi, c'est-à-dire que le fait d'être adhérente au syndicat Sud-Édu 93 et que nos camarades, via les médias, se sont laissés un peu embarquer par cette vague négative, sans vraiment comprendre les enjeux de ce que c'est déconstruire une oppression, se sont laissés emporter, ont décrédibilisé le stage, alors que c'est aussi un lieu de formation où on apprend, on débat, on n'est pas d'accord, on est d'accord, mais on avance ensemble. Et donc, du coup, les collègues autour de nous étaient aussi très réticents, très répressifs vis-à-vis de son droit d'expression et de pouvoir discuter sereinement de ce genre de polémique. Il n'y en avait pas une, en vrai. Et après, en interne, au niveau des adhérents aussi, qui, comme le disait notre camarade William, ne comprenaient pas les termes, ne comprenaient pas de quoi on parlait, ne comprenaient pas le but de nos outils. Donc, aux conclusions de ce stage, la commission antiraciste de Sud-Édu 93 s'est dit qu'on devait encore faire beaucoup, 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 beaucoup de pédagogie pour faire comprendre l'intérêt au niveau des apprentissages, parce que les oppressions freinent les apprentissages de nos élèves. Manque de confiance en soi, censure, je ne peux pas faire tel métier, je ne peux pas faire tel projet professionnel parce que je suis ci, ça, voilà. Il y a toute une imbrication de freins aux apprentissages qu'on voit dès la maternelle, dès l'élémentaire. Ça ne concerne pas que l'orientation, le racisme à l'école, malheureusement. Et c'est aussi quelque chose de très inconscient, comme le sexisme et tout type d'oppression. Donc on a le devoir d'y réfléchir. Comment, pourquoi, etc. Ça, c'est à chacun et à chaque groupe de définir comment il le fait. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à William.
Donc pour moi, cette question, c'est la question la plus intéressante parce que, comme je disais tout à l'heure, toute tentative de créer des mobilisations rencontre énormément d'obstacles, et c'est pas que les obstacles qu'on attend, parce qu'on a tendance à vraiment mettre l'accent sur l'extrême droite, etc. Il va falloir vraiment faire comprendre aujourd'hui que l'extrême droite n'a pas l'apanage du racisme, malheureusement. C'est vraiment quelque chose qui traverse toute la société. Et encore une fois, le racisme, c'est pas le racisme moral, c'est pas des propos qu'on peut tenir sur des gens, etc. C'est un racisme politique et donc structurel. Donc, effectivement, pour parler de façon plus générale et ainsi compléter un peu le propos de Rachel, on a rencontré énormément d'obstacles de l'institution. C'est des obstacles qu'on a rencontrés pendant le stage, mais en fait qu'on rencontre tout au long de notre vie, et y compris dans notre profession au jour le jour.
Les tentatives de censure qu'il y a eu du stage, c'est des tentatives qu'on rencontre tous les jours, encore une fois, de l'institution. Beaucoup d'enseignants disent « Non mais attendez, vous abusez un petit peu quand même. Il y a énormément de choses qui sont faites contre le racisme. Il y a la journée contre le racisme, la semaine contre le racisme qui est en parallèle de plein d'autres choses. Donc en fait, on n'entend jamais parler. Il y a plein d'outils sur Eduscol quand même, quand tu vas sur le site, sur lesquels tu peux t'appuyer. » Le gros problème de ça, c'est quoi ? C'est que en fait, l'État invisibilise le vrai problème du racisme structurel en le substituant en fait à un racisme moral. Donc effectivement, on doit mener un travail auprès de nos élèves sur c'est quoi le racisme ? C'est pas bien de dire des choses méchantes sur les gens, etc. Ça, bien sûr, on le condamne et on va pas revenir dessus. Mais l'État fait complètement fi de ce que les élèves vivent en termes de racisme structurel. Et sur ça, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune ressource, il n'y a rien, en fait, on n'en parle jamais. Or, les élèves et les professeurs racisés vivent ce racisme au jour le jour, et c'est quelque chose qu'ils rencontrent et effectivement qui les pénalise, comme disait Rachel, dans leurs apprentissages. Donc en déplaçant le débat, en fait, on fait comme si, au final, il n'y avait pas de racisme, ou comme si le racisme se réduisait à un racisme moral. Et ça, c'est extrêmement problématique et c'est un des plus gros obstacles qu'on rencontre aujourd'hui dans nos mobilisations contre le racisme. Après, on va parler de tout ce qui est contenu pédagogique. Quand on considère, par exemple, les programmes, tout à l'heure, Karim Chaouchi parlait des programmes d'histoire. Évidemment, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours, c'est un des gros obstacles aussi. En tant qu'enseignant, c'est quand on s'appuie sur les programmes de l'éducation nationale, on enseigne des contenus racistes tous les jours, et malheureusement, on se dit, c'est le programme d'éducation nationale, je suis dans les clous, j'enseigne ce qu'on me dit d'enseigner, c'est des contenus racistes. Et comment faire, en fait, comment s'organiser quand on veut décoloniser l'histoire, décoloniser les enseignements, alors même que tout dans l'institution est raciste? Ça, c'est un des autres gros obstacles qu'on rencontre. Après, il y en a énormément d'autres, mais je vais m'arrêter là pour ça, sinon on n'aura pas le temps. Il y a autre chose qui est extrêmement problématique et qui est un des plus gros obstacles, ce sont les enseignants eux-mêmes. Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais si la société est raciste et si elle est raciste de façon structurelle, nous sommes tous et toutes traversés par ce racisme-là. Et en particulier les enseignants blancs qui sont racistes. Alors quand je dis ça, souvent ça lève des tollés parce que j'ai énormément d'enseignants blancs qui me disent « Mais comment tu peux dire que je suis raciste ?» alors que tous les jours je réfléchis à comment transformer ma pédagogie. J'ai une vision humaniste de mes élèves. Moi, un élève noir et un élève blanc, c'est pareil, etc. Et bien ça, c'est problématique. Alors bien sûr... Je ne nie pas du tout les tentatives personnelles de nous améliorer. On a tous des choses à régler sur ces questions-là. Mais c'est extrêmement important que les enseignants conscientisent cela, conscientisent leur situation et surtout se rendent compte en fait, de la place qu'ils ont dans cette société, de la place que les élèves ont aussi et de toutes les problématiques en fait, qui sont engendrées par cela. Et c'est quelque chose qui traverse l'école, mais vraiment de bout en bout. Je parlais de programmes, mais je peux aussi parler de l'orientation, par exemple. Il y a des enseignants qui sont pétris de bonne volonté quand il s'agit d'orientation, mais qui participent au système de la désorientation ou de la surorientation dans des voies, dans certaines voies, des élèves racisés. Et ça, c'est un problème. Il y a d'autres choses, par exemple, comme les lectures culturalistes. On a énormément d'enseignants qui nous disent moi je suis de gauche, je suis profondément antiraciste, mais qui vont avoir des lectures totalement culturalistes de leurs élèves. J'ai entendu dire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, tel élève, il ne me regarde pas dans les yeux, mais ça c'est parce que chez les Noirs c'est comme ça, on ne regarde pas trop dans les yeux. Ça c'est des choses qui sont extrêmement problématiques, et pourtant ces enseignants-là qui sont pétris de bonne volonté essayent en réalité de trouver des explications à des choses à travers des lectures qui parfois en plus sont colonialistes et extrêmement racistes au final. Il y a aussi une autre question qui est extrêmement importante dans l'école aujourd'hui, c'est le traitement en fait des élèves racisés par les professeurs et en particulier les professeurs blancs.
qui distingue déjà le genre, on en parlait tout à l'heure, et Rachel disait effectivement que le genre s'ajoutait aussi à la race en fait, et qui distingue par exemple les garçons noirs et arabes des filles, et qui vont dire les filles, le seul moyen de se sortir de leur situation, de les sortir de leur banlieue, etc., c'est l'école. Donc on va mettre l'accent sur la scolarisation des filles, sur leur réussite, etc. Et les garçons, tel garçon, on a une lecture, tel garçon il veut pas réussir, il en a pas envie, bien entendu ce sont souvent les garçons arabes, parce que ce sont des lectures en fait qui sont héritées de la colonisation, selon laquelle il faut sauver les filles arabes de leur foyer, et les garçons arabes sont considérés comme violents, etc. Bon, il y a énormément d'études sur ça, et il faut que je coupe, donc on pourra en reparler dans les questions, mais c'est extrêmement important. Le dernier point, bon, c'est dommage, je savais que j'allais pas avoir assez de temps, mais le dernier point, c'est aussi ces espèces de concepts surfaits dont les gens sont persuadés, par exemple le concept de la mixité sociale. Pour moi, ça c'est un obstacle énorme, parce que tout le monde parle de mixité sociale comme de la solution miracle au problème du racisme aujourd'hui et au problème de la précarité, etc., et de l'échec scolaire des enfants racisés. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, en fait, on entend quoi par mixité sociale ? En réalité, on entend mixité raciale. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'en introduisant ou en empêchant les élèves blancs de fuir les milieux, les banlieues, les quartiers populaires, eh bien, on va préserver ces milieux-là de la précarité, de l'échec scolaire, etc. Ce qui est totalement faux, et ce qui en plus participe à cet imaginaire selon lequel mettre des enfants blancs dans tel établissement va tirer vers le haut. On entend souvent cette expression-là, on va tirer vers le haut, on va sauver. Expliquez-moi comment mettre Chloé, 10 ans, dans une classe où il y a Rachid, etc., va sauver le reste de la classe, je ne comprends pas. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention à ce genre de concept. Quand on se dit la mixité sociale, ça empêche la ghettoisation, etc. Non, en réalité, là, on déplace le débat et on a une lecture, encore une fois, raciste de ces concepts-là. Bon, je dois arrêter, mais on en discutera peut-être après.
Moi, j'aimerais recontextualiser rapidement le collectif, en fait, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Le collectif, en fait, était hébergé au centre social. Et parmi les membres du collectif, on appelle souvent le collectif jeune, mais ce n'était pas le cas. Il y avait des professionnels du centre social, et il y avait certains habitants aussi qui faisaient partie de la dynamique. Et on partait du concept en fait qu'une personne valait une voix, et on marchait à la majorité. Donc pour moi, il y a plusieurs sortes d'obstacles en fait qui arrivent d'un peu partout et qui qui ont réussi en fait à mettre un coup au projet. Donc nous sommes en 2013, on revient du congrès des centres sociaux à Lyon, où on était intervenu devant 4000 personnes, tonnées d'applaudissements, tout ça, on était 20, on revenait, on avait gagné la Coupe du Monde. On était contents. Deux semaines après, la directrice du centre social, donc qui portait le projet juridiquement et financièrement, est muté. Le délégué du préfet avec qui on travaillait en étroite collaboration, muté en Tunisie. Le chargé de mission des RGSCS, lutte contre les discriminations, envoyé vers une autre mission. Le centre social qui nous soutenait, qui nous fait comprendre qu'il faut partir. Donc il y a déjà les obstacles institutionnels. Et nous n'étions pas prêts en fait à vivre cela, parce que on a toujours refusé en fait au sein du collectif de se monter en association, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de hiérarchisation entre chaque personne. Et aussi un des concepts du collectif, c'est que chacun pouvait entrer et sortir comme il veut de la dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune contrainte. Et du coup, en fait, ce manque peut-être de notre part de lucidité, ça nous a pris de court. Et à un moment donné, C'est là qu'intervient le deuxième obstacle, l'obstacle personnel. Tout d'abord parce que au niveau familial, je vais parler en mon nom propre et non plus au nom du collectif. Déjà, il y a l'obstacle pour ma part parentale. Donc, pour ma mère qui arrivait en France d'Algérie au début des années 70, il ne fallait surtout pas critiquer la France de Mitterrand qui l'a accueillie. Il ne fallait surtout pas critiquer cela. Et c'était une chance qu'ils avaient ici, que j'avais d'être ici. Je devais beaucoup à la France, alors que je suis né ici, et que je devais beaucoup à la France et que... Comment dire ? Je n'avais pas le droit de remettre en question ce qu'on me disait à l'école. J'avais pas le droit. Et j'ai commencé à prendre conscience de ça à la mort de mon père, où j'ai retrouvé mes origines. Bon, bref, ça, c'est des histoires personnelles. On aura l'occasion d'en reparler en off après. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a nos vies. On était jeunes, comme je vous ai dit tout à l'heure, bénévoles. Il n'y avait aucun salarié. On avait besoin de construire nos vies, tant professionnellement que personnellement, parce que le travail qu'on menait, c'était un travail quotidien qui nous prenait beaucoup de temps. Et ça s'est essoufflé, en fait, parce que chacun voulait retrouver sa vie. Et voilà. Ensuite, il y a les obstacles associatifs. Une association que je nommerai pas, qui commence par SOS et qui finit par racisme, qui en fait, concrètement, je vais être cash, parce que moi je suis quelqu'un qui parle cash, et je parle en mon nom toujours, il ne faut pas mettre ça sur le nom du collectif. Voilà, c'était des maghrébins qui étaient en poste, qui venaient nous voir, à nous dire, viens mon fils, maghrébin ou africain, viens mon fils, on va discuter, voilà, vous y allez un peu fort les gars quand même, faut plus rentrer, faut plus y aller subtilement, tout ça... Voilà, n'hésite pas, quand tu es à la table des élus, n'hésite pas à boire un petit verre de vin, tout ça. Bon, bref, c'était des gens, en fait, qui essayaient de nous acheter, parce que concrètement, en fait, on représentait un danger pour eux, parce qu'on leur sucrait leur subvention, en fait. Concrètement. Vu que nous, on était là, on occupait l'espace, ils avaient moins de subventions. Et du coup... Une fois que voilà, notre projet s'est essoufflé par notre volonté aussi, en fin 2013, du coup on n'entendait plus parler de ces personnes, ils venaient plus, on n'était plus leur fils ou leur frère, bizarrement. Et ensuite, il y a l'obstacle municipal. Donc, comme on faisait bouger beaucoup de choses au niveau municipal, et que ça plaisait pas parce qu'on demandait des transformations qui étaient peut-être un peu trop pour notre municipalité. On s'est vu que certains d'entre nous, ceux qui avaient la plus grande gueule, s'offrir des emplois aidés en tant que médiateur dans le quartier, en fait, pour... voilà, on vous offre un emploi et vous parlez un peu moins. Concrètement, c'est... Et concrètement, personne n'a accepté. Pas parce que l'envie était. On a tous envie d'avoir un boulot, surtout quand on avait 20 ans. On a envie de travailler, on a envie d'avoir des sous pour s'acheter les dernières fringues, tout ça, pour vivre, pour commencer notre vie. Et du coup, on a refusé et à partir de ce moment, la mairie a compris qu'il n'arriverait pas à nous faire taire et a arrêté, n'a pas mis du plomb dans l'aile au projet, mais a arrêté de le soutenir publiquement, en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Donc, et quand le projet, voilà, quand les forces vives ont diminué, voilà, le projet s'est éteint. Ensuite, pour finir sur une touche positive quand même, Il y a 2 ans de cela, il y a mon fils qui est né. Du coup, je le regardais et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas le laisser dans une société qui va... Je sais qu'on va pas non plus changer les choses. C'est pas notre génération qui changera les choses, ni sûrement celle d'après. Mais avoir le sentiment de... Avoir le sentiment de participer justement à ça, Du coup, j'ai fait comme Charles des X-Men. J'ai retrouvé tout le monde du collectif. J'ai réuni tout le monde et autour d'un repas parce que c'est ce qui marche. Et du coup, on s'est dit, voilà, chacun a pu trouver un certain équilibre. Il y en a qui sont devenus chefs d'entreprise parce que cette expérience, quand même, ça nous a préparé à la vie. Le centre social a vraiment eu un rôle d'éducation populaire. Et du coup, on s'est dit, on va relancer le truc, on va relancer la machine, parce que tout ce qu'on a fait, on avait de l'or entre les mains, et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Malheureusement, mes collègues, ils n'ont pas pu venir, parce qu'il y aurait eu plus d'ambiance. ils n'ont pas pu venir, mais peut-être une prochaine fois, pourquoi pas. Mais voilà, nous, la lutte... on la lâche pas, on la reprend plus doux parce que voilà, on a des contraintes, tout ça, mais on est toujours sur le terrain.
Alors, moi j'ai identifié plusieurs obstacles, même si faudrait que je parle aussi des succès. Donc, je vais dire sur les succès. Bon, il y a certaines actions en fait des mamans accompagnatrices qui sont issues de sorties scolaires, notamment via le collectif contre l'islamophobie en France, qui se sont positionnées sur le registre du droit, donc qui ont eu des victoires, des victoires certaines, mais disons qu'aujourd'hui, si on parle laïcité, on parle d'une cause d'État, on parle d'une préoccupation d'État. Cette rentrée scolaire le prouve via le formulaire sur le déni de laïcité ou entrave à la laïcité, etc. Donc quand on s'engage dès 2012, quand les mamans s'engagent dès 2012 contre la circulaire Châtel, elle s'engage, comme le nomme Claire de Galambert, dans une cause hérétique, une cause qui n'est pas glamour, en fait. Donc c'est déjà en plus, elles sont concernées. Donc ça représente un coût certain. Un coût certain, et je remercie quand même pour l'avoir illustré, c'est-à-dire que si on replace les personnes concernées dans leurs conditions sociales d'existence, on peut très rapidement comprendre pourquoi les personnes ne s'engagent pas aussi, tout simplement. Ce qui me fait parler d'un point qui n'est pas à proprement parler un obstacle, mais qui me questionne, et j'allais dire que le propos de Kalwan Bhopal juste avant cette table ronde me permet de rebondir là-dessus, le rôle des militants par conscience. J'ai bien parlé d'entrepreneurs de cause tout à l'heure, qui sont pour la plupart des fonctionnaires parisiens, donc qui sont dans des situations stables, qui eux, si la cause n'est pas gagnée, n'ont clairement rien à perdre matériellement en termes de quotidien, alors que ça engage émotionnellement, affectivement, quotidiennement ces femmes. Et donc, la manière dont il et elle, j'allais dire, transmettent des savoir-faire militants, enfin, ce qu'on appelle des répertoires d'action, sont déjà des choix qui sont arrêtés, en fait, et qui peuvent finalement impliquer des coûts quotidiens, des coûts en termes de lutte encore plus importants pour ces femmes. La plupart des femmes que j'ai interrogées sur ces luttes, elles ne veulent plus en entendre parler aujourd'hui, soit parce qu'elles ont déménagé et qu'elles ne sont plus confrontées à ce problème, soit parce que la circulaire Châtel a été abandonnée dans leur établissement, soit parce que leurs enfants ne sont plus dans des établissements publics. Ce qui ne veut pas dire qu'elles arrêtent complètement le militantisme, mais ce qui veut dire qu'elles vont vers d'autres causes, comme le non-remplacement des enseignants, la mixité sociale, etc. Donc des causes un peu plus larges, on va dire. Et donc je mets militant par conscience, je laisse ça comme ça, je n'ai pas la réponse, mais interroger le rôle des militants par conscience, qui ne sont pas directement concernés par les objectifs des protestations, mais qui, si demain ils désertent la cause, l'handicap quelque peu. Donc, quand je vous dis, certaines d'entre elles me disent je ne veux plus militer, ça s'appelle la fatigue militante. Voilà. C'est très, très, très simple, tous ceux qui militent savent ce que c'est. Ensuite, sur cette cause, donc, que je répète, qui est une cause hérétique, le plus gros obstacle, il est politique. Il est politique parce que pendant la présidence de François Hollande, les ministres de l'Éducation nationale ont beaucoup tourné, en fait. Donc, quand ces collectifs arrivaient à mener des actions collectives auprès du ministère de l'Éducation nationale et que leurs paroles arrivent jusqu'au ministère, eh bien, d'une part, beaucoup de ministres et ministres femmes sont frileux et frileuses à l'idée de s'emparer de ce dossier, même s'il y a des accords de principe. Et le turnover empêche finalement l'aboutissement, en tout cas une vraie force coercitive pour que ça soit traduit en acte. Alors que, comme je vous dis, il y avait des vraies victoires sur le plan juridique. Pourquoi aussi je vous dis que le principal obstacle, il était politique, c'est que ces collectifs ont réussi quand même à amener cette question jusqu'au Conseil d'État. Via le défenseur des droits qui se voyait inquiet du nombre régulier et fréquent de mères accompagnatrices qui étaient interdites de sortie scolaire parce qu'elles portaient le foulard et qui se plaignaient de cette situation. Donc le défenseur des droits n'a pas pris position, mais a saisi le Conseil d'État en 2013. Quand le Conseil d'État produit un rapport sur cette question, où c'est très clair, il explique que les mamans accompagnatrices ne sont pas collaboratrices du service public, qu'elles sont mamans accompagnatrices, qu'elles sont parents. Eh bien, donc ça, c'est le 19 décembre 2013. Le 23 décembre 2013, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, par communiqué de presse, explique qu'il ne changera rien à la circulaire Châtel. Donc, même s'il y a eu une avancée en termes de droit et de positionnement des juridictions, au niveau politique, on étouffe la chose et on reste dans le statu quo. Voilà.
Bah déjà, je vous remercie d'être venu et de nous avoir fait découvrir ces collectifs les uns plus merveilleux que les autres. J'aurais deux questions pour Karine. Comment avez-vous fait concrètement, enfin comment avez-vous réussi concrètement à avoir des soutiens institutionnels, même si c'est exclusivement financier? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des soutiens? Si oui, comment faites-vous pour les entretenir? Je parle pas dans le micro. D'accord. Je vais répéter la question, je pense que c'est bon. Je disais, comment avez-vous fait concrètement? Enfin, comment avez-vous réussi à avoir des soutiens institutionnels, même si c'est exclusivement financier? Et deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des soutiens institutionnels? Si oui, comment faites-vous pour les entretenir? Ma deuxième question était pour Lisel. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, vous travaillez avec des écoles? Si oui, comment avez-vous amené ces écoles à travailler avec vous? Et ma dernière question, c'est pour Anan. Je voulais savoir, ces collectifs dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'ils ont un réseau de communication commun? Est-ce qu'ils essayent de communiquer, de conjuguer leur lutte? Ou est-ce que c'est des luttes séparées? Voilà.
On prend une série de questions.
Juste une question rapidement, en fait, pour Sud Éducation 93. J'aurais voulu savoir si, au sein de votre syndicat, enfin, de Sud Éducation dans le 93, il y avait eu des débats internes et s'ils avaient été vifs, justement, sur la question de l'organisation de ce stage non mixte. Ou si c'était plutôt une décision, enfin, c'était plutôt quelque chose qui avait été, qui faisait l'objet d'un relatif voilà, accord au sein de vos... voilà.
Oui, c'est bon, on m'entend. Bonsoir et merci aussi pour cette table ronde très intéressante. Moi, j'avais une question, enfin plusieurs questions qui s'adressent à plusieurs d'entre vous concernant la prise de position ou l'engagement des plus jeunes encore que vous sur ces questions-là. Alors, dans le cadre d'un engagement syndical, c'est différent puisqu'évidemment, ça passe par l'entrée dans la vie active. Mais par exemple, ce stage, est-ce qu'au sein des établissements et vu la polémique, ça a suscité un débat parmi les élèves. Et j'ai assisté ce mardi à une conférence au musée de l'histoire de l'immigration sur le rapport, le bilan entre la gauche et l'immigration. Et il y a certains thèmes qui sont ressortis dans les questions, notamment sur toute la colère et la haine qu'il peut y avoir envers les politiques de gauche par les populations immigrées et une déception qui a pu naître, mais aussi dans le milieu militant, en fait, une forme de désaveu ou de désengagement ou de désillusion par rapport à ce que l'engagement militant a pu permettre, qui n'a pas permis d'aboutir sur un certain nombre de réformes. Et donc, je me demandais, que ce soit Karine qui reprend aujourd'hui une association, est-ce que c'est juste ceux de cette précédente génération ou est-ce qu'il y a des partenariats avec des associations de jeunes? Et si globalement, dans vos différentes formes d'actions militantes auxquelles vous avez participé ou assisté, il y a vraiment une continuité par rapport aux générations qui arrivent. Merci.
On vous laisse répondre, du coup.
Donc, pour le soutien institutionnel, en fait, aujourd'hui, concrètement, on n'a pas, on s'autofinance. On essaye de faire du mieux qu'on peut parce qu'on ne veut pas retomber dans les spectres du passé. On n'a pas encore fait le deuil de ce qui s'est passé, du coup. Et comment on a réussi à avoir du soutien institutionnel? Concrètement, on a eu du soutien institutionnel fort sur toutes les questions d'engagement des jeunes et de lutte contre les discriminations qui reviennent à la mode, mais qui étaient encore plus à la mode d'avant. Et je pense que les financeurs ont été... surpris que les projets tels qu'ils ont été écrits ont été rondement menés. Dans le sens où, on ne va pas se mentir, dans 90% des cas, les structures qui posent des projets sur l'engagement des jeunes, tout ça, c'est du marasme, c'est un faux engagement. Et du coup, là, le fait que les financeurs se sont sentis bousculés dans leur travail et dans leur démarche, c'est ça en fait qu'ils se sentent bousculés, ça, je pense que ça les a refroidis à un moment donné parce que je sais pas, je suis pas dans leur tête. Et un jour par exemple il y a une femme du département qui m'a dit j'ai 30 000 euros, qu'est-ce que je fais? Je dis ben donne-les moi, je vais faire des choses moi, il n'y a pas de problème pour le collectif, pas pour moi, mais non mais concrètement je pense que c'est ça en fait, c'est l'action qui a fait peur, parce qu'on a essayé de nous discréditer plusieurs fois en nous disant « Oui, mais on peut vous proposer des formations pour apprendre à parler, on peut vous proposer des formations pour apprendre à parler à une assemblée, plein de choses comme ça, mais nous, c'est pas ce qui nous intéressait. Nous, on voulait aller tac au tac dans le vif du sujet et débattre, quoi, et pointer du doigt là où ça va pas. Et peut-être ça a été une erreur de notre stratégie d'y aller trop au front et de ne pas être rentré dans le système, justement, pour... Après, je ne sais pas, c'est mon avis personnel, je ne sais pas du tout. Et concernant la deuxième question sur les générations, du coup, là, même si ça fait 2 ans qu'on s'est revus et qu'on a recommencé à travailler ensemble, on est encore sur une phase de structuration, on essaie déjà de se structurer nous-mêmes, mais ça ne nous a pas empêchés de rencontrer auparavant des jeunes du Blanc-Ménil, justement, la maison des tilleuls qu'on connaît bien. Avec justement aussi, on a fait beaucoup de formations avec les femmes de sortie scolaire avec nous. Nous, on est surtout, voilà, nos actions, on essaie de les mener dans notre quartier, au quotidien. Et les jeunes, ils nous connaissent, ils nous identifient, ils savent ce qu'on fait. Et ils viennent nous voir, ils posent des questions. Même les plus grands, ceux qui sortent jamais du quartier,
ils viennent nous voir, ils nous posent des questions, et le fait de se sentir écouté sur la question des discriminations, ça aide plus que je sais pas, pardon, plus que le défenseur des droits ou autre qui te prend en entretien pendant 30 minutes, ok, donc il y a ça, vous avez des preuves sur les discriminations. Voilà, cette personne vous a discriminé, il vous a refusé un logement. Il y a des mails en preuve, il y a des SMS en preuve, ok, pas de souci, on va lui envoyer un mail pour dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Au revoir. Et en gros, je lui ai dit, si je vole ta moto, est-ce que je vais avoir un mail pour dire que c'est pas bien ce que je fais? Non. Donc, voilà, mais on essaye de travailler au moins là, c'est sur la nouvelle formule du collectif, au moins on se base au niveau local déjà, on consolide nos bases et pour pouvoir justement rayonner plus au niveau national.
La question le rapport ou le travail avec les écoles. Alors la stratégie la plus employée, la plus usitée, est plutôt d'être d'abord des délégués de parents. Enfin, on ne travaille pas directement, on n'arrive pas en disant à l'école, on va travailler sur ce point-là. Plutôt en tant que délégué, hein, on va d'abord être soit dans les... associations qui existent déjà, soit dans des associations créées justement. Enfin, il y a souvent un double mouvement. Enfin, d'abord entrer dans des listes déjà constituées. Une fois qu'on arrive à rassembler un groupe avec lequel on partage une initiative et on se met d'accord sur une action, se crée la liste indépendante, puisqu'en fait dans les écoles on peut proposer, il y a cette possibilité d'avoir donc des listes de parents délégués, et ça nous permet de pouvoir participer de manière autorisée, officielle dans l'école, et de rentrer et d'avoir plus de rapports. Et c'est à partir de là, donc on travaille en interne avec les enseignants et les enseignantes. Je parle surtout là pour le primaire, enfin, c'est plutôt les expériences qu'on a le plus au front de mer. Donc à partir de là, en fait, instaurer un rapport de force. Et plus on est nombreux et nombreuses, enfin, et plus on arrive vraiment à faire un peu bouger les choses. Je pense en particulier, par exemple, à un collectif de Bagnolet, avec Fatima Wassak, donc travailler et fait partie ensemble pour les enfants de Bagnolet, hein, où elles se sont constituées en collectif pour et autour de la question de l'alternative végétarienne. Et donc finalement, à force, enfin, un travail donc qui est constant et long sur le long terme, puisqu'il a duré plus d'un an, obtenir enfin c'est la possibilité justement de proposer deux fois par semaine à la cantine un plat sans viande, par exemple, enfin végétarien en tout cas, un menu. Voilà, c'est des actions ponctuelles d'abord à partir d'une entrée par en tant que délégué de parents ou de liste indépendante.
Pour revenir sur la question de la non-mixité, alors je voudrais revenir sur un terme que vous avez dit, ce n'est pas un stage en non-mixité. Le stage était ouvert à tout adhérent. Et deuxièmement, il n'y avait eu que 2 ateliers en non-mixité sur 12, à peu près. Donc, je reviens maintenant sur votre question. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des débats internes au sujet de cet outil ? Dans le cas de ce stage, oui, il y en a eu. Il y en a eu des très vifs aussi. Pourquoi il a été proposé ? Parce que déjà, à Sud Éducation, par la commission antisexiste, il y a eu l'initiation d'ateliers de temps très ponctuels pendant les stages, pendant les réunions entre femmes. Donc cette pratique-là de la non-mixité existait déjà. Et comme Sud Éducation s'est intéressée après à la question... du racisme structurel et systémique, et qu'il avait une certaine compréhension de comment l'oppression pouvait invisibiliser et faire taire les personnes qui étaient oppressées, permettait, voulait un espace où la parole était libérée. C'était vraiment un des seuls buts, c'était de libérer la parole et non de viser un séparatisme de société. Donc là, on y tient, on le pose. C'est utiliser l'outil de la non-mixité pour créer un espace syndical plus inclusif. Donc c'est très complexe. Il ne suffit pas de donner accès à des gens pour qu'ils viennent. Il faut qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent le droit de parler, qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas jugés parce qu'ils parlent de quelque chose que les autres peuvent ne pas comprendre. Donc du coup, c'est vraiment un outil militant, ponctuel, non obligatoire et possible au sein de nos espaces. Mais effectivement, ça a créé des vifs débats, mais c'est aussi le but du débat. Merci.
Pour compléter ce qu'a dit Rachel, en fait, ce qui s'est passé au syndicat, c'est ce qui se passe, c'est à l'image de ce qui se passe dans la société, c'est qu'effectivement, en fait, tout le monde est d'accord sur l'antiracisme. C'est-à-dire que quand on va poser la question à quelqu'un, la personne, il est très rare, ou en tout cas, on a affaire à quelqu'un de pas, voilà, il est très rare que la personne dise non, je suis raciste, voilà. Cette question-là, elle est claire. Par contre, ce qui pose débat ensuite, c'est qu'est-ce que comprend cet antiracisme-là ? Comme je disais tout à l'heure, on dit souvent que les racistes sont l'extrême droite, etc. Non, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que veut dire ton antiracisme-là ? Et c'est là qu'en fait ça fait débat, parce que l'utilisation de certains termes, l'utilisation de certains procédés, de certains outils, qui sont parfois très novateurs ou pas, hein, parce que la non-mixité, c'est quelque chose qui est très connu, par exemple, aux États-Unis, qui a l'air d'arriver en France, en tout cas, quand il s'agit de la non-mixité raciale, parce que la non-mixité de genre, ça fait un petit moment aussi qu'elle est connue de tous et toutes. Donc, en fait, c'est ça qui a posé débat, et ce qui a posé aussi débat, c'était tous ces termes qu'on entend très peu, malheureusement, parce que dès qu'on les utilise, En fait, il y a une espèce de criminalisation de ces termes-là, et aussi, en fait, les antiracistes deviennent les racistes parce qu'ils parlent de race. Pour moi, c'était ça aussi le cœur du débat. C'est ce truc de, c'est ce qu'on a vu récemment avec la suppression du mot race. Dès qu'on parle de race, on est raciste, alors que non, en fait, on commence à prendre à bras-le-corps une problématique qui est en réalité un des fondements de notre société. Donc oui, ça a créé du débat, mais quelque part, on se dit que c'est normal, voilà. Et on se dit que c'est peut-être l'amorce de quelque chose de plus constructif par la suite. Voilà. Je peux en profiter pour répondre à la question de madame sur c'était quoi, prise de position, engagement des plus jeunes, c'est ça ? Oui, je voulais en parler parce que c'est extrêmement intéressant, vu que nous, nos publics, ce sont majoritairement des jeunes. Il y a une très forte mobilisation des jeunes. Moi, je le vois à travers mes élèves. C'est extrêmement drôle parce que souvent on parle beaucoup d'eux, mais on les écoute très peu, ou en tout cas on s'attarde très peu à ce que eux ont à dire. Et par rapport à la problématique du stage, par exemple, c'est quelque chose. Alors j'en ai pas parlé, c'était dans des temps informels. Je vais me couvrir, je rigole. J'en ai parlé avec eux, en tout cas j'ai parlé de ces problématiques-là. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas les mots à mettre dessus, mais c'est des choses qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. C'est des choses qui sont limite naturelles pour eux. Donc effectivement, ce sont les premiers concernés, ce sont les premiers à dire que c'est pas normal, sauf qu'on ne les écoute pas. En fait, c'est un public qu'on invisibilise et qu'on ne veut pas écouter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces jeunes-là, ce sont les premiers à subir, comme je disais, à travers tout ce qu'ils vivent au sein de l'école. Ça me permet de répondre aussi à la question d'Audra Beau, qui était d'expliquer pourquoi l'école était raciste, quel est l'intérêt en fait de l'école à être raciste. L'école a intérêt à être raciste parce que c'est ce qui va permettre de maintenir un ordre établi, en fait, de maintenir un système. C'est ce qui permet de ne pas bouger, voilà, de garder, que les dominants restent dominants, que les dominants restent dominés, et qu'il est, que les privilégiés bah, gardent leurs privilèges tout simplement. Et les élèves le ressentent, et c'est ce qui crée la mobilisation par la suite, bah, à travers une question toute simple, celle de l'orientation par exemple. L'orientation, c'est une des premières questions quand on demande aux élèves bah, qu'est-ce que tu penses de ton orientation, c'est les premiers qui disent bah, en fait c'est n'importe quoi. Enfin, moi, on m'oriente là, mais moi je veux pas. La conseillère d'orientation m'a dit ça, ça, ça. Je ne dénigre pas le travail des conseillers et conseillères d'orientation, mais il y a un réel problème à ce niveau-là, bon, tout le monde le sait. Moi, il y a plein d'anecdotes que j'entends tout le temps. Par exemple, quelqu'un qui me disait il y a quelques jours qu'il avait été orienté en, je crois que c'était CAP carrosserie, alors qu'il est allergique à tous les produits chimiques. Donc en fait, il s'est retrouvé dans un CAP alors qu'il était complètement allergique à tout ce qu'il allait utiliser et à l'environnement dans lequel il allait être. Donc voilà, enfin, il y a une réelle mobilisation de ces jeunes-là. Maintenant, ce que je pense qu'il faut développer avec eux, c'est la conscientisation et l'appropriation aussi de ces luttes-là et des termes, et etc. Voilà.
La question de la coordination, en fait, la sociologue Odéa Sall, elle parle du champ militant contre l'islamophobie, donc qui regroupe finalement des gens qui sont au MRAP, des gens qui sont chez les Verts, des gens qui sont au pire, des gens qui sont sans étiquette, et donc qui sont une composante, j'allais dire, de l'extrême gauche, à l'extrême extrême gauche. Et donc qui ont certaines ressources, ressources politiques déjà, parce que en fait, ça multiplie en fait les entrées, ça permet notamment, par exemple, Karim rappelait la maison des tilleuls, mais depuis le changement de maire, il n'y a plus la même vivacité dans cette maison des tilleuls. Enfin, c'est ce qui a mis fin justement à la mobilisation des sorties scolaires avec nous. Mais bon, par exemple, un maire communiste au Blanc-Mesnil, bah, ça a permis d'offrir en fait des ressources aux femmes qui voulaient se mobiliser. Et puis d'autres, en fait, quand elles faisaient une pétition, on a eu des, il y a eu, je dis on, mais il y a eu des signatures comme, j'ai oublié son nom. En tout cas de députés, de pas mal de députés d'extrême gauche, des partis communistes ou des Verts. Des entrées médiatiques aussi. Enfin, il y a vraiment en termes de coordination là-dessus quelque chose en termes de ressources qui est assez régulier, qui font que bah, elles ont quand même des tribunes médiatiques, même si c'est très marginal, ça existe. Et puis j'allais dire... tout ça combiné a permis quand même d'amener la parole de ces femmes jusque dans des rapports qui étaient destinés au Premier ministre, par exemple, dans le cadre du rapport TUO. Après, il y a eu des groupes de travail. Dans un des groupes de travail sur la question de l'inclusion et puis justement d'une laïcité inclusive, enfin d'une laïcité ouverte, en tout cas pas une laïcité qui exclut encore plus, le cas de sortie scolaire avec nous avait été repris. Et pour eux, contrairement à certains travaux de sociologues, ils ne voyaient pas le travail de ces femmes, enfin le travail militant de ces femmes, comme une preuve de leur intégration ou de leur francité. Non, c'était une preuve que ce sont des citoyennes et qu'elles réclament l'égalité. Voilà.
Et je crois qu'on va dire merci à nos intervenants et intervenantes et qu'on n'a pas le temps de prendre d'autres questions. Voilà. On va passer la parole à la suite.